Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt ils furent baptisés, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ce texte, duquel j'aimerais simplement relever une pensée particulière et mettre en évidence une pensée qui est, il est vrai, difficile à aborder, parce que elle a trait au désir de mort. Je lis ceci, ou je le relis, il nous est dit qu'à un moment donné dans ces événements, que le geôlier se réveilla, il tira son épée et allait se tuer, pensant que... Il y a un mot dans notre vocabulaire qui caractérise ce désir de mourir, c'est le suicide. Et il faut bien dire que c'est un fait de tous les temps, c'est un fait d'actualité qui touche les hommes et les femmes, qui touche parfois les adolescents, les hommes qui sont dans l'âge mûr, mais également, eh bien, ça ne fait pas exception en ce qui concerne les personnes âgées. Dans ce mot « suicide », c'est un mot latin, tiré du latin, sui, S-U-I, c'est-à-dire de soi, cadere, tuer, frapper, et sid, qui a donné suicide, sid, qui tue, ou qui se tue, dans son étymologie. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres. Il y a environ 12 000 morts d'hommes, de femmes qui ne supportent plus la vie par an. Il y a 160 000, 200 000 tentatives également de suicide par an. Et à l'échelle mondiale, pour dire que le phénomène est d'une ampleur considérable, il y a 1 million de suicidés par an dans le monde, c'est-à-dire ce qui donne une personne qui attend à ses jours toutes les 40 secondes. C'est horrible. Alors c'est vrai que quand on prêche l'évangile, on parle de beaucoup de choses, mais comme s'il y avait une retenue, une certaine pudeur, on ne parle pas de ce phénomène qui est terrible, terrible. Et les statistiques sont souvent sous-évaluées par défaut de déclaration. On n'en parle pas. Dans notre monde occidental, il y a des services qui traitent les accidents de la route, qui traitent toutes sortes de maux de notre société, mais c'est avec beaucoup de pudeur que on ne touche pas ou on ne parle pas de ce phénomène. Je le disais il y a un instant, le suicide est universel et il est partout. Si l'on peut donner une définition, on pourrait peut-être dire que c'est tout simplement un geste violent, absolu et définitif. Et la question qui vient, mais comment un être humain et pourquoi un être humain décide-t-il de mettre fin à ses jours et de perdre ce qui est considéré comme le bien le plus précieux, c'est-à-dire la vie? Alors, je pense qu'il faut aborder le sujet avec une grande réflexion. Et puis, je pense qu'il faut aussi prendre en considération ce qui peut amener quelqu'un, dans le désespoir et le désarroi, à faire ce geste. Dans la Bible, il y a parmi les 10 commandements, tu ne tueras point, mais il inclut aussi tu ne te tueras point. Dans les sociétés occidentales et dans le monde, et le monde religieux, on a diversement appréhendé le problème. Je vous dirais que, par exemple, au Moyen-Âge, un suicidé était véritablement quelqu'un d'exécrable, abject, à tel point qu'on prenait ses biens et on l'écartelait, ou on le brûlait. C'est pour dire que les mœurs étaient pas forcément très délicates et très raffinées, mais ça s'est vu. Ce qui a donné peut-être encore des relents d'attitude dans notre société aujourd'hui, avec des réflexes qui ne sont pas toujours les meilleurs, à la fois pour celui qui se suicide, pour la famille qui reste. Et croyez bien qu'une mort naturelle est une chose, mais une mort par suicide, c'est autre chose. C'est terrible. C'est dramatique. Avant d'arriver à la question biblique, j'aimerais encore prolonger la réflexion. Il y a naturellement différents suicides. Il y a le suicide que nous connaissons, je pense, c'est celui auquel nous pensons le plus, dû au mal-être. Et notre société génère des suicidants. À la frustration. Le suicide que nous nommons altruiste, c'est-à-dire que quelqu'un donne sa vie pour la survie des autres. C'est arrivé, ça. Dans des temps de guerre ou dans des temps de catastrophe, quelqu'un va donner sa vie pour sauver les autres. C'est une forme de suicide. Il y a un suicide qu'on appelle anomique, qui survient lors de la perte des repères moraux. Et on est peut-être dans une ère où il va peut-être y avoir ce genre de suicide de plus en plus, alors qu'il y a une perte finalement de repères, l'effondrement des valeurs. Il y a le suicide fataliste, et puis il y a le suicide comme une échappatoire quand il n'y a plus d'avenir. On est dos au mur, et alors que faire? Suicide dépressif, suicide agressif, suicide punitif, ça fait partie aussi du phénomène. Celui qui est lié au chantage. Si je n'ai pas ceci, eh bien, je vais faire un acte irréversible. Ou à la fuite. Peut-être lié à l'absurdité de la vie, parce qu'il faut dire que quelquefois, certaines existences, elles sont absurdes. Elles n'ont pas de sens. Refus du monde tel qu'il est. Et peut-être beaucoup de nos jeunes, ne supportons plus le monde tel qu'il est, la compétition. Cette concurrence, eh bien, on arrive, parce qu'ils ne peuvent pas suivre, de dire, eh bien, qu'est-ce que je fais? Vaudrait-il mieux être ailleurs? Vous remarquerez avec moi que la Bible est très discrète sur la question du suicide. Elle cite quelques cas. Abimélec, roi de Sichem, qui va être tué par une femme. Et parce que c'est une femme qui le blesse mortellement, il va dire à son écuyer, « Eh bien maintenant, enfonce ton épée pour que je meure. » Enfin, c'était pas un personnage très reluisant, Abimélec. Il y a Achitophel, conseiller de Salomon, et qui voit à un moment donné ses bons conseils, parce qu'il avait toujours été écouté, mais là, cette fois-ci, et ça, ça avait été voulu par Dieu, qui finalement, eh bien, va perdre la face, et il va aller dans sa maison, dans son territoire, et là, il va se suicider. Il y a Samson. Hey, comment on peut appeler ça? Peut-être que certains diront, mais c'est déguisé, mais c'est quand même ça. Il y a le roi Saül, si vous vous souvenez. Parce que lui, dans la défaite de Gilboa, on sait ce qu'il avait fait 24 heures avant, il avait été voir une magicienne, et ne supportant pas la défaite, eh bien, là aussi il va être blessé, et puis il va finalement vouloir mourir, et il va mourir. Et puis, c'est peut-être là où nous gardons un souvenir très très douloureux, c'est celui de Judas, qui livre Jésus. Les noms que je viens de citer mettent en évidence, semble-t-il, l'aboutissement logique, un processus de non-retour, soit de la folie chez Abimélec, soit de désobéissance chez Achitophel, par exemple, ou alors également d'orgueil, de vanité, sorte d'entraînement, d'enchaînement de choix désastreux qui deviennent tout simplement irréversibles. Et il ne leur reste plus qu'une chose, eh bien c'est mourir. Enfin, croit-il ? C'est comme l'homme de notre texte quand il nous a dit qu'il tira son épée et allait se tuer, pensant que. Parce que quand on lit ce texte, pensant que, c'est parce que finalement, eh bien, pour ce geôlier de la prison de Philippe, il n'y a plus d'espoir, pensant que. Il ne savait pas qu'il y avait la lumière à côté de lui. Il ne savait pas qu'il y avait une formidable espérance. Le mal que nous avons communément l'habitude d'appeler péché, qui les tourmente, les rend aveugles, tous ces gens-là. Et on apprend que ces suicidés, au moment de leur geste fatal, étaient déjà morts. Oui, ils étaient peut-être encore vivants physiquement, mais moralement et spirituellement, ils étaient déjà morts. Quelque part, il y avait quelque chose. Samson avait perdu l'esprit. Alors, c'est une grave question que nous pouvons nous poser. Savoir si finalement, eh bien là, le suicide, le désir de mourir, l'acte dont nous parlons, eh bien, n'est pas que finalement la conclusion, le geste dernier, parce que finalement au niveau de l'âme et de l'esprit, eh bien, il y a déjà quelque chose qui ne va plus, puisque c'est lié au péché. D'autres cas bibliques nous disent que certains souhaiter n'être jamais né. Alors, est-ce qu'on peut parler de... En tous les cas, vous allez voir que dans les noms que je vais citer, on peut être surpris, vous les connaissez, de toute façon. Vous les connaissez très bien. Mais ils ont désiré, finalement, ne jamais avoir connu, ne jamais avoir vu le jour, en raison de différentes choses. Si je vous parle de Job, il l'écrit. Et il l'écrit à plusieurs reprises. Et nous voyons également un homme de Dieu qui s'appelle Élie. C'est pas n'importe qui, le prophète. Eh bien, il veut mourir. Vous avez Jérémie, qui est quand même un champion de la douleur et de la souffrance, parce que quand même, le livre de Jérémie est un livre terrible de ce qu'un homme est capable de supporter. Et puis, il y a aussi Jonas, qui lui, parce que il est en plein soleil, ça lui tape un petit peu sur la tête, il dit, Seigneur, hein, je veux mourir. Mais c'était pas pour ça qu'il voulait mourir, c'était pour autre chose. Job, c'est la souffrance extrême. C'est une grave question, hein. Quand la souffrance est là et qu'elle nous pousse dans les paroxysmes, finalement, dans cette antichambre de la mort, mais avec des douleurs indicibles. Chez Élie, il y a la dépression spirituelle. Il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire sur le mont Carmel, et puis d'un seul coup, c'est l'effondrement. Dépression spirituelle. Il veut mourir. Quant à Jérémie, c'est la persécution. On lui fait des misères inimaginables, et il veut mourir aussi. Et puis, quant à Jonas, c'est un petit peu particulier, parce qu'il y a quand même un problème chez lui, c'est l'égoïsme, et c'est la vanité blessée. Il se dit quand même, c'est pas normal que Dieu fasse grâce aux gens de Ninive. Moi, Jonas, j'ai raison, et Dieu doit avoir certainement tort dans cette affaire. Alors comme ça se passe pas comme il le pense, eh bien, il est contrarié, il est vexé et il veut mourir. Le processus d'autodestruction vu par le croyant peut être perçu comme une démarche ultime de péché et de révolte contre Dieu. Je ne voudrais pas renfermer cette phrase dans l'absolu, mais quelque part, la suite tend à nous le prouver. De fait, quelqu'un a dit ceci, que ce n'est pas le suicide qui est un péché, mais le péché est un suicide. Et ça depuis le jardin d'Éden. Si l'on prend les choses comme elles ont commencé, la réalité du mal, le fait que le mal existe dans ce monde, alors que Dieu avait donné une destination tout autre à l'homme, ça nous laisse penser, et peut-être réfléchir sérieusement, que le péché est un suicide. Parce qu'à partir du moment où nous intégrons ce processus de mort dans cette séparation avec Dieu, dans cette désobéissance de Dieu, eh bien c'est comme si on se suicidait. Une mise à mort. Mais on peut pas faire autrement. Parce que comme le dit Paul dans Romains chapitre 5 verset 1er, que finalement par un seul homme le péché est rentré dans le monde et que tous les hommes sont contaminés. S'il y avait une porte de sortie, humainement parlant, il y en a une, elle est spirituelle. Donc, ce sont des choses qui sont, me semble-t-il, très importantes. Être ou ne pas être. C'est Shakespeare qui écrit ça dans Hamlet. Être ou ne pas être. Hein, telle est la question. Vous pouvez le traduire en anglais si vous voulez. Voilà. Ou alors, peut-être, nous pourrions prolonger. Croire ou ne pas croire. Telle est la question. Parce que c'est ça, finalement, le message de l'évangile. Et vous souvenez que Jésus donnera pour mission à ses disciples dans les derniers moments avant qu'ils se séparent d'eux. Il dira « Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, et puis il ajoute, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » En quelque sorte, il se condamne lui-même par refus de croire. Tout simplement par refus de croire. Maintenant, lorsque nous disions tout à l'heure que nous parlions de ce processus d'autodestruction, une autre question se pose, le suicide, œuvre de Satan. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette question. Œuvre de Satan, œuvre du diable, laissez-moi simplement vous rappeler ce texte qui nous est consigné par l'apôtre Jean dans Jean chapitre 8, verset 44. Il est dit ceci, et vous le connaissez, je ne fais que seulement le rappeler. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, et voilà la suite. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et là, nous touchons certainement au cœur de ce qui amène les hommes et les femmes suicidants à passer à l'acte. Parce qu'il y a bien quelque chose. Quand on voit que la vie, elle est chevillée, et on va faire tout, on va mettre tout en œuvre pour vivre, pour manger, pour garder notre équilibre, garder notre vie. Et il y a des gens qui sont capables de faire des prouesses, qui sont capables de se battre, qui sont capables de faire des choses extraordinaires pour vivre. Alors comment se fait-il que les choses chez d'autres sont complètement renversées et la seule pensée, la seule obsession, la seule chose qu'ils portent en eux-mêmes et je veux bien le croire qui doit être d'un tourment et d'une douleur extraordinaire, de désirer vraiment mourir. C'est quelque chose. Œuvre de Satan. Le suggesteur, le pollueur, l'empoisonneur numéro un. Et qui s'y prend de différentes manières, je pense à la jeunesse, à travers toutes sortes d'aliments, enfin, entendez par là, à caractère moral, ou voire même spirituel. à travers toutes sortes de pressions, à travers toutes sortes de suggestions, à travers toutes sortes là de convoitises. Et ça fait son travail, et ça fait son œuvre. Vous savez, donner des pensées de mort, des musiques de mort à un homme, eh bien, il va penser à la mort. Donnez-lui un espoir, donnez-lui la lumière, donnez-lui le bien, eh bien, il pensera à la vie, il pensera à vivre. Parce que la vie, elle vient de Dieu, et c'est Dieu qui l'a donnée. Quand Dieu dit, si tu crois, tu seras, tu verras, tu recevras. Le diable s'empresse de répondre, aucun espoir, tout est perdu. Ouais. Peut-être ceux qui ont fait la dépression, qui ont connu les angoisses, vous savez ce que c'est. C'est difficile. C'est même, on se demande comment quelquefois, eh bien, les choses peuvent être supportées. L'adversaire attire l'homme vers la mort volontaire. Oh, quand il peut arranger des guerres ou des conflits où personne n'est responsable, il sait faire, il a l'expérience et il sait comment s'y prendre. Mais la mort volontaire, parce qu'elle représente pour lui une grande victoire, il sait alors que le malheureux sort de la grâce en lui donnant l'illusion de la liberté. Je suis libre de faire de ma vie ce que je veux. Voilà. Et si je veux la donner, si je veux la sacrifier, je la sacrifie, je suis libre. Alors, nous sommes dans véritablement les extrêmes. Parce que quand il est question dans la Bible de la liberté, c'est une liberté qui fait vivre. C'est pas une liberté qui fait mourir. Mourir, est-ce une porte de sortie ou une porte d'entrée? Ça me fait penser spontanément à ce que Jésus dit. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, tout sera ténèbre. Et il le disait justement de l'être intérieur, du cœur, de l'âme humaine, de l'état d'esprit, un état d'esprit qui quelquefois peut être ténébreux. C'est bien pour ça que la nécessité de l'évangile s'impose, pour les hommes. Alors, porte d'entrée, porte de sortie, certains y verront, parce qu'ils ne supportent plus, eh bien ils verront que c'est une délivrance. Mais pour entrer où ? On dira que c'est un acte de courage, d'autres diront c'est un acte de lâcheté. D'autres iront jusqu'à dire, eh bien, c'est la libération, c'est la liberté. Je suis libéré ou je suis captif. Et pourtant, je crois que Jésus avait prévu un petit peu toutes ces réflexions des hommes pour resituer les choses vraiment dans le contexte de la foi. Écoutez cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors les pauvres, nous pouvons y mettre toutes les catégories d'hommes, de femmes, en souffrance dans ce monde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce que, vous savez, on peut avoir des membres ou des os brisés, mais un cœur brisé, ça fait certainement peut-être, au-delà, beaucoup plus mal. Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Ça, c'est l'évangile qui nous promet ces choses. Et Jésus est venu spécialement pour apporter cette lumière, pour apporter cet espoir, pour apporter cette espérance, pour dire aux hommes, eh bien, arrêtez. Au moment où je vous parle, il y a certainement, et je frémis en y pensant, qu'il y a probablement même dans cette ville des gens dans le secret, dans la solitude, dans le désarroi, dans la misère, en raison certainement d'une histoire de vie qui n'en finit pas. De drames existentiels. Enfin, je ne dis pas plus parce que, mais ça existe. Ça existe. Vous savez que Dieu est capable d'arrêter au dernier moment celui qui a envie de mourir. Il l'a fait pour ma maman. Avec un petit feuillet du calendrier, vous savez. Ouais. Je suis allé la voir, elle était dans une maison, un foyer logement. Et elle passait des moments très très difficiles après la mort de mon père. Et c'était l'après-midi, et elle m'a dit, elle m'a raconté cette histoire, elle m'a dit, je voulais vraiment mourir, je voulais en finir. C'est vrai que, quand on a vécu toute une vie, c'est difficile de voir, naturellement, l'autre partir. Et elle voulait le rejoindre, probablement. Et elle m'a dit, au moment vraiment que je pensais que je voulais en finir, j'ai lu le calendrier l'éphéméride. Elle a détaché, et c'était précisément une parole, « Ne te tue pas ». Et elle m'a dit ça l'après-midi. Ben, j'ai dit « Merci Seigneur, merci que tu sois resté avec nous, maman ». Ouais. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu travaille, et nous devrions être certainement sensibilisés. J'y pense très souvent, qu'il y a des gens autour de nous, et nous le mettons dans nos prières. Qu'il y a autour de nous des gens, on ne les connaît pas de visage, de nom, on ne sait pas qui ils sont, jeunes, vieux, quelles que soient leurs conditions. Mais quelquefois, nous pourrions le mettre dans nos prières en disant, Seigneur, arrête, arrête ce geste, arrête ces gestes, arrête ces hommes, ces femmes, qui sont pris dans le désespoir. Et puis, il y a un ravage terrible dans notre monde. Candidat à mourir, attention à l'occultisme. Et ça, c'est connu. Ça a été vérifié. Les premiers à avoir des pensées, des obsessions et des désirs de suicide sont ceux en priorité qui ont touché à l'occultisme. Parce que c'est une dimension de mort. C'est une dimension qui vous promet, mais qui vous promet de l'illusion, qui vous promet le bonheur et vous avez le malheur. Et ça, c'est terrible. Donc, il y a un danger. Et dans une société civilisée comme la nôtre, eh bien, il y a de plus en plus de gens, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont dans le désarroi, parce qu'ils sont à la recherche de ceci ou de cela, qui vont finalement, eh bien, se tourner vers ces sciences occultes, vers cette marée noire, vers cette marée mortelle dans laquelle, eh bien, comme celui qui marche dans les sembles mouvants, va finir à un moment ou à un autre à être complètement emporté et englouti. Je dirais que un suicidant, c'est quelqu'un qui est malheureux. Très malheureux, forcément. Il est mal dans sa peau, il est mal dans son âme, il est mal dans sa tête, il est mal dans son cœur, il est mal partout. Et ça se voit pas, apparemment. C'est pas forcé que ça se voit. Mais il est malheureux. Malade, car il entrevoit la vie comme une impasse. Et il faut quand même attendre le temps du départ. Et certains pensant que c'est une impasse, comme notre homme, quand il nous est dit qu'il tira son épée parce qu'il allait se tuer, pensant que c'était fini, pensant que, eh bien là, il avait une responsabilité de garder des prisonniers, qu'il y a eu un tremblement de terre qui était inspiré d'en haut, ou qui était provoqué par celui qui est en haut. Alors à ce moment-là, quand il a vu les prisonniers qui étaient en dehors de leur cellule, il s'est dit, mais c'est fini pour moi. Et je pense que, quand on avait une telle responsabilité dans l'Empire romain, on devait certainement pas faire de quartier à celui qui devait être là, préposé à surveiller. Il devait surveiller quoi qu'il en soit. Alors, entrevoir sa vie comme une impasse et de dire, eh bien voilà, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire. Quand l'existence pèse, continuer à vivre devient parfois déshonorant, voire même dégradant. Je pense à la souffrance physique. Dans certains cas. Mais il y a bien autre chose. La conclusion, je me permettrai de relire le verset 27 et 28, où il est dit ceci. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alors le geôlier demanda de la lumière. Eh oui. Et je ne voudrais pas tirer sur le sens de ce verset. Mais moi je crois que quand un homme, dans sa plus totale obscurité, dans ses ténèbres, quand il demande de la lumière, quand il crie à la lumière, il y a quelqu'un qui l'entend. Ouais. Dieu est lumière. Et il est plus que lumière, il est amour. Et la lumière, on en connaît les propriétés. D'abord, elle nous révèle où nous sommes, elle ouvre nos yeux, elle nous permet finalement de voir. La lumière, elle nous rassure. La lumière, elle nous réchauffe. Et combien certainement il y a d'hommes, de femmes qui ont besoin d'être réchauffés au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils sont froids depuis longtemps. Alors il a demandé de la lumière. Ça me fait penser à cette parole que vous connaissez, nous la citons très très souvent dans l'évangélisation. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses ou de toutes ses angoisses. Eh oui. Quand un malheureux crie appelle la lumière ou demande de la lumière pour y voir clair, n'est-ce pas notre cheminement aussi à nous, à une certaine époque probablement de notre existence, de notre vie? Il y a un verset que j'affectionne profondément, c'est dans le livre des Proverbes. Au chapitre 24 et au verset 14, il est dit ceci, et je trouve qu'il est très pertinent dans notre réflexion. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, si tu veux la trouver, si tu la recherches, si tu l'appelles, si tu la réclames, alors, à ce moment-là, si tu la trouves, il est un avenir. Le mur, la montagne, tout ce qui te prive de voir au-delà de ta misère, au-delà de ta souffrance, cette forteresse qui s'élève devant toi et qui te donne aucune perspective de aucune vision. Alors, à ce moment-là, la parole est claire, connais cette sagesse. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Je trouve que c'est formidable, cette parole. Ton espérance ne sera pas anéantie. Parce que justement, le propos que nous venons de tenir, c'est l'anéantissement. Enfin, façon de parler. La vie qui est anéantie. La rédemption reste toujours possible. Quel que soit le péché de l'homme et sa gravité. C'est peut-être difficile à comprendre ça. On est quelquefois bien cloisonné dans nos stéréotypes, on est quelquefois conditionné et nous avons aussi des préjugés. Mais la parole nous enseigne aussi que Jésus est mort pour que les hommes ne se mettent pas à mort, ne se donnent pas la mort. Toute la différence repose sur le choix. Comme un écho qui remonte des pages profondes de notre Bible. Choisis la vie et non la mort. Ouais. Choisis la vie et non la mort. Et comme je le disais il y a un instant, toute la différence repose sur le choix. Vous connaissez l'histoire de Pierre et de Judas. L'un renie, l'autre trahit. L'un se repent. Et il trouve une autre dimension de sa vie. Et puis l'autre, pensant que son péché est impardonnable, alors à ce moment-là, eh bien, il va se pendre. Ils ont choisi tous les deux. L'un a cru, et l'autre ne pouvait pas croire que cela soit possible pour lui. Alors, il s'est mis aux pieds de Paul et de Silas, cet homme, et il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Eh oui, quand on commence à y voir clair, quand il y a une lueur qui apparaît là dans le fond de notre tunnel, alors on commence à reprendre espoir. Et il a posé cette question et il a dit, « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Eh bien, le message de Dieu est encore d'actualité, parce que nous ne serions pas là. Le salut, le pardon, la délivrance, la vie, et je parle de la vraie vie, la paix, le bonheur, sauf à quiconque croit encore, ou veut croire encore. Un seul geste fatal, tragique, désespéré peut donner la mort, un cri, comme dans notre récit, celui du cœur qui monte vers le ciel pour ouvrir vers une nouvelle dimension d'existence. Et c'est bien ça la différence. Je reviens à Pierre. Imaginez-vous quand il a renié Jésus. Je ne suis pas de cet homme-là. Je ne suis pas avec cet homme-là. Alors, il portait un fardeau à ce moment-là. Pourtant, il avait été prévenu. Et il faut que, dans la cour du souverain sacrificateur, il croise les regards de Jésus pour s'apercevoir de la gravité de son péché. J'ai trahi mon ami. J'ai trahi celui que mon cœur aime, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Et là, il va pleurer. Et dans ce regard, il perçoit quelque chose. Ouais. Son âme est enténébrée à Pierre à ce moment-là. Mais dans le regard, il y a une lumière. Et il sait que cette lumière, elle est pour lui. C'est comme si c'était une main tendue, Pierre. Tu sais, quand tu seras converti, affermis tes frères, parce qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a encore quelque chose pour toi, ce n'est pas fini. Ça peut nous ouvrir à une nouvelle dimension. Je crois que dans nos milieux, nous avons certainement à entendre, et nous aurons à entendre, de belles histoires ou de beaux témoignages de gens qui étaient peut-être à la dernière extrémité et qui là, eh bien, ont saisi. Et peut-être que serions-nous devenus? Parce qu'il y a le suicide instantané, mais que penser de ce suicide qui se fait sur des années? L'alcoolique qui boit, c'est quoi? C'est un suicide? Le garçon ou la fille qui prend de la drogue, elle le prend pas comme ça. C'est une forme de suicide. Et puis tant d'autres choses qui se font dans le temps, qui sont distillées comme cela et qui fait que ben notre corps est empoisonné. Et moi, j'ai connu une jeune fille qui, après, je la connaissais bien, 15 ans de prise de médicaments avec de l'alcool, un bon jour, 30 juin 1980, c'était ma propre sœur. Le travail avait fait son œuvre. 15 ans, 18 ans de prise de médicaments, et puis elle est partie. Eh oui. Alors on n'a pas, c'était pas un suicide proprement dit, elle s'est éteinte. C'est terrible ça. Le prophète Ésaïe nous dit ceci au chapitre 48 et verset 18. « Oh, si tu étais attentif à ma parole, si tu étais attentif à ma voix, et Dieu se manifeste de tellement de manières, si tu étais attentif à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. » Oui, mais Dieu parle encore. Et Dieu s'adresse encore aux hommes, ça c'est sûr. Et voilà les promesses qu'il nous fait. « J'ai pour toi un avenir et de l'espérance. » Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et finalement, l'envie de mourir ne viendrait-elle pas de la problématique du manque et du rejet d'amour? Et je termine sur cette dernière pensée. Parce que finalement, je crois que le problème des hommes, il est là. Moi, j'en reste profondément convaincu. J'ai peut-être pas une grande expérience de la vie, mais on l'a vu suffisamment. On a pu tirer quelques réflexions et quelques observations. Le grand drame de l'homme, c'est certainement un manque, un rejet d'amour. Ouais. Depuis les temps immémoriaux, là où il y a eu cette catastrophe dans le jardin d'Éden, et puis sous différentes formes, sous différents aspects, de différentes manières, quoi qu'il en soit, ce manque et ce rejet d'amour, on peut pas vivre sans amour, hein, c'est pas possible. Regardez les drames qui se passent dans notre société quand il y a ces divisions, ces ruptures causées par les séparations conjugales et tout cela. Regardez l'état des enfants. Et puis, on supporte mal, hein, le rejet, le manque d'amour. On supporte mal, on supporte pas. Certains en arrivent à la solution extrême, comme nous le disions. Alors, j'emprunterai pour terminer tout simplement ces dernières paroles. Je les ai dites la semaine dernière et je les redis encore aujourd'hui. Ces trois choses demeurent. La foi. L'espérance. C'est bien ce que les gens ont besoin, hein. La foi en Dieu. L'espérance. Dans un avenir. Dans l'avenir. Je dis bien avec un grand l'avenir. Et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et croyez bien que Dieu a résolu le problème. Puisqu'il nous a prouvé en nous donnant Jésus sur la croix que finalement, ce que nous avions besoin, il ne s'est pas trompé dans le traitement. Il nous a donné la preuve de son amour. Oui, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et pour que nous puissions finalement retrouver ce chemin qui nous conduit vers la lumière, vers Dieu, vers la paix, vers le bonheur. Parce que il n'y a pas autre chose dans le ciel que de l'amour. Que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu nous donne son aide et qu'il nous bénisse. Et puis je voudrais dire une dernière chose entre parenthèses. Soyons très circonspects dans nos jugements devant ces situations qui sont et qui restent dramatiques. Dramatiques. C'est terrible. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais hier j'avais vraiment ce fardeau sur mon cœur. Ça peut servir aux enfants de Dieu. Ça peut servir peut-être à d'autres qui entendront une nouvelle fois ce message, qui peut-être cliqueront sur Internet puisqu'il est enregistré. C'était aussi pour que le faire connaître. Il faut faire connaître ce message de l'amour du Seigneur. Alors que Dieu nous aide dans cette affaire. Que Dieu nous remplisse de son amour et de sa compassion. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu, pour ceux qui désespèrent. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Nous allons prier maintenant, si vous voulez bien. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te remercions parce que la vie n'est peut-être pas aussi légère que parfois, eh bien, les hommes le considèrent. Ou lorsqu'ils voient les choses avec cette légèreté, c'est peut-être pour fuir. En effet, la gravité de certaines situations, de certains états, de certaines détresses, de certains désarrois. Seigneur, cet après-midi, nous voulons tout simplement nous tourner vers toi. Et ma pensée, Seigneur, eh bien, c'est avec mes frères et mes sœurs, c'est en cet instant de te prier, de te demander, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux, Seigneur, qui sont peut-être dans un terrible isolement, dans une solitude mortelle. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, fais leur grâce. Oui, Seigneur, fais leur grâce. Quels que soient ces hommes, quel que soit leur passé, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quel que soit, en effet, ce qu'ils ont pu vivre, fais leur grâce, Seigneur. C'est pourquoi l'Évangile a été annoncé, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, qui, eh bien là, Seigneur, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui sont captifs, pour rendre la vue aux aveugles, eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te demandons de te révéler, de te manifester. Nous croyons qu'il y a en Dieu, eh bien, la solution, Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ, une solution merveilleuse et formidable. Merci, Jésus. Merci, notre Sauveur, de ce que tu as donné la preuve de ton amour en mourant pour chacun d'entre nous, pour que nous n'ayons pas à mourir. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.